Oui, et je pense que vous connaissez tous plus ou moins la guerre des ondes. Véritable arme de propagande et de désinformation pendant la Seconde Guerre mondiale, impossible de ne pas vous parler de la radio française sous l'occupation allemande.
Agora Côte d'Azur. Reportage.
À partir de l'entre-deux-guerres, la radiodiffusion devient l'un des médias modernes de masse majeure. Outil d'information, de divertissement, la radio devient même le support de discours d'hommes politiques. Au fur et à mesure de l'invasion allemande, plusieurs radios cessent d'émettre. Des institutions sont mises en place afin de mettre sous tutelle la diffusion d'émissions. Depuis déjà 1938, l'État français tend à centraliser la radiodiffusion. En 1939 est créé un réseau de radiodiffusion nationale et un commissariat général à l'information qui se doit de, je cite, « organiser, animer et coordonner tous les services d'information et d'expansion française ». Il reste les radios collaboratrices comme Radio Paris, dont la ligne éditoriale est gérée par Philippe Henriot, pilier de la collaboration culturelle et de la propagande vichyste.
Cloche de Pâques, souvenir de Pâques, éternelle jeunesse de Pâques, et cette résurrection qui défie la mort, les calculs des méchants, les ruses des hypocrites, et qui confond à la fois le scepticisme de Pilate, l'arrivisme de Caïphe, la trahison de Judas, la passagère lâcheté de Pierre et l'incrédulité de Thomas. Quelle leçon en cette journée pour ceux qui seraient tentés de désespérer, nous qui nous souvenons et qui refusons de désespérer. Nous souhaitons de tout cœur à ceux qui nous écoutent que ces Pâques françaises 1944 soient déjà, à travers les épreuves et les deuils, l'annonciation frémissante de la résurrection.
Ces radios collaboratrices n'ont en réalité pas vraiment le choix. Dans la convention d'armistice signée en 1940 entre la France de Vichy et l'Allemagne, il a été stipulé que, je cite, tous les émetteurs de TSF se trouvant en territoire français doivent cesser sur le champ leurs émissions. La reprise des transmissions par TSF dans la partie du territoire non occupé sera soumise à une réglementation spéciale. À travers ces émissions, Radio Paris diffuse la propagande nazie et promeut une Europe nouvelle. Il n'est pas rare d'y entendre des journalistes allemands dans des émissions comme « Un journaliste allemand vous parle ». Des programmes de haute qualité étaient diffusés, du théâtre radiophonique, des émissions lyriques, de la musique classique, mais également de la littérature. En termes de radio totalitaire, il y avait également Radio Vichy, la radio pétainiste. Dès le fameux appel du 18 juin 1940 se lance la guerre des ondes. Pour revenir rapidement sur cet événement, le général de Gaulle parle pour la première fois au micro de la radio de Londres sur les ondes de la BBC. Un appel à tous les militaires, ingénieurs et ouvriers français spécialisés dans l'armement sur le territoire britannique qui leur demande de se rapprocher de lui afin de continuer le combat contre l'Allemagne qui a déjà envahi la France. Un appel à la résistance française.
Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance.
Radio Londres est une émission destinée aux résistants français diffusée depuis la section française de la BBC. Elle était émise depuis un émetteur de droit Twitch. Radio Londres rompt complètement avec la traditionnelle radio française. De jeunes chroniqueurs inventent la radio dite de proximité, contenant des messages personnels, des sketchs, des chansons, des blagues. Deux slogans tournent en boucle. Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. Et ici Londres, les Français parlent aux Français.
Ici Londres, les Français parlent aux Français.
Radio Paris. Radio Paris, Radio Paris est allemand. Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand.
Radio Londres devient une véritable arme de guerre, tout autant que Radio Brazzaville. Il s'agit d'une station de radio française qui devient également la voix de la France libre, fondée en 1942.
Notre pensée va aussi en ce jour à l'Empire français qui s'étend sur toutes les parties du monde. Et que nous convions à entendre notre voix. Elle sera toujours, quoi qu'il advienne, la voix incorruptible de la France. Le poste national français de Brazzaville vous parle.
C'est Jean Moulin qui engendre le projet en proclamant De Gaulle comme étant le seul chef de la résistance française. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la radio devient un outil d'information et de désinformation, mais également de propagande. Elle est à la fois utilisée par les alliés comme par les occupants. C'est également un terrain d'amélioration technique incroyable. Le radar, la radionavigation, le brouillage radio. Les Allemands, pour déstabiliser les résistants français, décident de mettre en place les radios noires. Ces radios sont destinées à se faire passer pour des radios clandestines, mais sont en réalité émises par le gouvernement collabo. C'est le cas de Radio Humanité qui se fait passer pour une radio communiste française afin de faire passer une propagande nazie glorifiant le Troisième Reich et amorçant une campagne de propagande anti-française. Et pour finir sur notre belle région, pendant l'occupation, Marseille devient un centre de création radiophonique majeur. Malgré le fait qu'elle ne soit qu'un réémetteur passif de Radio Vichy, tous les services artistiques radio ayant fui Paris s'y retrouvent. Quant à la création de Radio Monte Carlo, nous la devons à la France de Pétain, l'Italie fasciste et l'Allemagne nazie, avec la bienveillance de la Principauté de Monaco, qui décidèrent en 1943 de lancer une nouvelle station périphérique. La station était destinée à devenir une radio de propagande, mais la fin de la guerre sonna la tirette d'alarme et RMC n'a finalement diffusé que de la variété et aucune propagande. Au moment de la libération, les trois émetteurs de la région subissent le sabotage des Allemands avant leur départ. De nouveaux émetteurs sont mis en place, les radios d'État sont réactivées sous le nom de Radio Marseille et Radio Nice. Le gouvernement français récupère Radio Monte-Carlo qui devient à terme la radio officielle monégasque.